Merci de suivre Radio Okapi. Il est 8h à Kinshasa, 9h à Beni. C'est l'heure du journal avec Babel Pongo-Massimango à la présentation, Alain Goya à la technique. Bienvenue.
Radio Okapi. Okapi.
Plus jamais de massacres aux têtes que ceux enregistrés vers les années 2000 lors des conflits intercommunautaires en Ituri, sous le combat de l'association culturelle Lori, regroupant les Lindou. À l'occasion des 25 ans de ces tueries, elle appelle au respect des engagements pris et à la résolution pacifique des conflits. Non à l'exploitation des enfants pour des fins économiques et sexuelles, c'est le thème d'un carnaval de sensibilisation organisé hier à Matadi. C'est une initiative de l'association des motocyclistes du Congo central. La coordination provinciale de la protection civile du Nord Kivu, dotée de véhicules et de matériel bureautique, apport de la section des affaires civiles de la MONUSCO, un geste qui vient soulager ce service installé à Beni depuis l'occupation de Goma par le M23. Notre invité Joël Ndagana, responsable de ce service étatique, salue le soutien continu de la MONUSCO et évoque les défis de son service. Il est notre invité. Madame, Monsieur, bonjour. Nous commençons en Ituri. L'association culturelle Lori, regroupant la communauté Lindou, réaffirme son engagement à accompagner les autorités étatiques dans la recherche des solutions durables pour le retour de la paix. Ce représentant l'ont déclaré vendredi 23 janvier à Bounia, à l'occasion de la commémoration des 25 ans du massacre de plusieurs membres de leur communauté lors des conflits interethniques des années 2000. À travers cette commémoration, l'association Lori entend non seulement honorer la mémoire des victimes, mais aussi prévenir un retour aux atrocités du passé. Que retire d'autre de leur message, Jean-Claude Lokidile?
Dans leur déclaration, les responsables de l'association ont appelé toutes les communautés ituriennes, en particulier celles des territoires de Djougou et d'Irumu, épicentre des violences actuelles, à s'abstenir de tout acte susceptible de raviver l'animosité intercommunautaire. Pour Lori, la restauration d'une paix durable passe par le respect des engagements pris par les groupes armés de mettre fin aux hostilités. Les gens doivent se mettre autour d'une table pour résoudre les différends par le dialogue, a insisté Marcus Mbito, vice-président de Lori.
C'est le moment aussi d'appeler nos vieux, comme Thomas Lubanga. Tous les groupes armés locaux, toute personne est prise du développement de notre province, de pouvoir revenir à la raison et que nous puissions nous mettre autour d'une même table et que nous puissions parvenir au développement de notre province et l'Ituri.
Ce dernier a également interpellé l'État congolais à assumer pleinement ses responsabilités régaliennes, notamment en imposant la paix face aux groupes armés réfractaires au processus de paix en cours. L'association culturelle Lori exhorte par ailleurs les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme afin d'éviter que la province ne retombe dans les cycles de violence du passé. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Merci Jean-Claude. La ville de Beni au Nord Kivu dispose désormais d'un plan local de sécurité qui couvre une période de 3 ans. Ce document stratégique a été validé vendredi à l'issue d'une séance de réflexion sur la situation sécuritaire de la ville. Travaux qui ont réuni autorités politico-administratives et militaires, acteurs de la société civile et mouvements citoyens locaux avec l'appui technique de la section des affaires civiles de la MONUSCO Beni. Conçu de manière participative, ce plan vise à renforcer la prévention, l'anticipation des menaces et la réponse coordonnée aux défis sécuritaires en impliquant activement la population. Karim Moussa Amouissa, président de la jeunesse urbaine de Beni, explique son importance au micro de Marco Marofimbo.
C'est un besoin de la population de Beni. On ne pourrait pas évoluer sans un plan de sécurité parce qu'on avait déjà élaboré plusieurs plans de développement. Il fallait qu'il y ait aussi un plan de sécurité local de la ville de Beni. Nous sommes en train de valider le plan et mettre à la portée de la population pour qu'ils sachent dans telle période, de telle période, les agents de sécurité seront à mesure de faire ça et ça et ça pour nous. Toute la population de la ville de Beni doit connaître les contenus de ces plans. Parce que c'est qu'aussi pour nous et par nous, nous pensons que les problèmes, les menaces qu'on a identifiées dedans, c'est ce que nous subissons dans notre ville. Et les pistes de solutions, nous les avons soulevées parce que ça pourrait donner quelque chose comme réponse aux problèmes que nous avons toujours subis. Nous allons nous approprier parce que c'est un plat aussi avec les autorités. Et nous pensons que c'est un plan qui sera mis en application directement et ça va donner une réponse positive par rapport à l'insécurité que nous avons toujours subie dans cette ville.
L'intégration des femmes albinos dans la gouvernance congolaise a été au centre d'une conférence débat organisée hier à Kinshasa par l'initiative She Leads qui forme des femmes leaders. Lors de cette rencontre, un appel a été lancé pour une participation inclusive des femmes au processus décisionnel et pour mettre un terme aux discriminations dont elles sont victimes. Ce reportage Blaise Ndongala est rendu par Josué Kefebe.
Lors de cette rencontre, les participants soulignaient que les femmes albinos sont souvent marginalisées et discriminées en raison de leur handicap. Et Jenny Ladia, l'une des organisatrices, a en conséquence appelé à l'unité et à construire les pays dans un climat d'équité et d'inclusion.
Nous voulons ce qu'il y ait un monde inclusif, un monde qui a l'équité. Nous avons les mêmes capacités, nous avons les mêmes compétences, que la couleur ne puisse pas nous partager. Construisons le Congo, nous tous ensemble, dans un climat inclusif, de diversité et d'équité.
Modestine Kazadi, une participante, a pour sa part encouragé les femmes albinos à s'accepter et à s'assumer pleinement malgré les discriminations.
La femme atteinte d'albinisme doit s'assumer, doit s'accepter, ne pas prêter attention à toutes ses croyances, se lever, être sûre d'elle, parce que si on parle de l'handicap c'est d'abord dans la tête. À mon avis, j'aurais encore préféré qu'il y ait une loi spécifique pour les personnes atteintes d'albinisme. Parce que dans la loi organique, tout ce qui est pris en charge là-bas ne prend pas en charge les préoccupations des personnes atteintes d'albinisme.
Présents à la conférence, les chefs coutumiers ont salué cette initiative. Ils se sont engagés à sensibiliser leur communauté afin de mettre fin à la discrimination envers les personnes albinos.
Promouvoir et valoriser les talents des femmes et des jeunes entrepreneurs pour une paix durable et une autonomisation inclusive dans le monde du numérique, c'est le thème développé lors d'une conférence vendredi à Kinshasa. L'école des femmes leadership et développement a choisi de clôturer ainsi sa campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cet événement visait à démontrer aussi le savoir-faire des femmes formées au sein de cette école. Suivi à ce propos, Consolette Moulonzo, coordonnatrice de cette structure, au micro de John.
Cette activité était une activité qu'on devait faire depuis le mois de décembre dans le cadre des 16 jours d'activisme. Vu qu'on avait eu beaucoup d'activités pendant les 16 jours d'activisme, il était demandé que nous puissions faire une formation par rapport à cette activité. Nous avons repoussé la clôture pour la date d'aujourd'hui pour que nous puissions valoriser toutes les femmes qui sont passées par nous. Nous les avons dit de valoriser leur talent. Ils ont fabriqué tout ce que nous leur avons appris et nous avons mis ça aux yeux aussi de tout le monde, pour que les gens qui le voient et qui peuvent les aider en subvention ou quoi que ce soit, puissent aussi les chercher parce qu'ils ont des talents. Maintenant, c'est la mise en valeur qui pose problème parce qu'ils sont méconnus. Mais pour qu'ils soient connus de tous, nous avons pensé à cette activité pour qu'on puisse les valoriser et les vendre dans le marché.
Non à l'exploitation des enfants pour des fins économiques et sexuelles. C'est le thème d'un carnaval de sensibilisation organisé hier à Matadi, au Congo central. C'est une initiative de l'association des motocyclistes du Congo central, AMOCOC, et ses partenaires du réseau routier. Cette activité visait à toucher les différentes couches de la population concernées par la protection des droits de l'enfant. D'après le président de l'AMOCOC, cette campagne appuyée par le Bureau international des droits de l'enfant cible en priorité les parents et responsables familiaux appelés a joué un rôle central dans la prévention de l'exploitation des enfants. Nana Plurich Mambou nous dit comment cela s'est passé.
Ce carnaval motorisé a été mené sur les grandes artères de Matadi. Les motocyclistes vêtus tous des t-shirts blancs portant mention « Non à l'exploitation des enfants à Matadi » ont sillonné toute la ville. Ils ont sensibilisé les parents et les enfants sur les méfaits de l'exploitation sexuelle et aux fins économiques des enfants. L'idée est de les aider à identifier les situations à risque et à connaître leurs droits. Cette campagne, d'après Bamo Bamonekene, président de l'association des motocyclistes du Congo central, ira jusqu'au mois de juin prochain. Les écoles, églises et marchés seront des principaux cadres d'intervention en tant que lieux stratégiques de transmission des messages de protection et compte tenu de leur influence sur les comportements sociaux. Le maire de Matadi, présent en cette activité, loue l'initiative et souhaite son expansion dans toute la province. Dominique Nkodiambete.
Un enfant de moins de 18 ans, sa place, c'est à l'école, ce n'est pas au marché, ce n'est pas dans les hôtels, non à l'exploitation des enfants. C'est un crime. Merci à la MOCOC qui nous a mené cette initiative. Il ne doit pas arrêter cette campagne à mi-chemin.
L'association des motocyclistes du Congo central entend mener cette activité avec succès et obtenir des résultats probants en vue de gagner la confiance du Bureau international des droits des enfants qui l'a appuyé dans cette initiative. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Mbandaka, une feuille de route sur la santé a été remise vendredi au gouverneur de province. C'est la nouvelle Task Force Communication Multisectorielle qui va mettre en œuvre ce document conformément au règlement sanitaire international auquel la RDC a adhéré depuis 2019. Selon le Dr Raoul Kamanda, directeur du Programme national de communication pour la promotion de la santé, cette feuille de route a pour objectif de rendre visibles et efficaces les activités menées dans les cadres de la communication de risque, de la prévention et de la lutte contre les maladies d'origine végétale, animale et bien d'autres problèmes liés à l'environnement. Dr Raoul Kamanda explique son importance dans ses propos recueillis par Askin Zibataero.
La sécurité sanitaire globale ou mondiale a des piliers. Il y a 19 piliers dans l'ensemble. Parmi ces 19 piliers, il y a le pilier CREC, la communication de risque. Beaucoup de gens ne comprennent pas sa pénétration. La communication de risque, elle est fondée sur l'éducation de la population, l'accompagnement de la population pour comprendre les risques sanitaires. Les risques sanitaires sont nombreux et sont majeurs. Je prendrai un exemple. La sécheresse, c'est un risque sanitaire. Les volcans, l'inondation sont des risques sanitaires. L'enfant non vacciné ou l'enfant qui a abandonné la vaccination, c'est un risque sanitaire. La femme qui n'a pas suivi complètement les 4 séances de la CPN, ce sont des risques sanitaires. Maintenant, on doit aller vers la routinisation, la gestion en routine de ces risques-là. Et dans le cas du RSI, le pilier CREC, justement, a comme responsabilité d'éduquer la population, d'accompagner la population, d'informer la population, d'encadrer la population à lutter contre les différents risques, à gérer contre les différents risques sanitaires.
Dans le cadre du soutien à l'enseignement de base en RDC, la mairie de Kolwezi finance la construction de 2 écoles primaires. Il s'agit des écoles Mavuno, dont la cellule Ewabora, et de Kamanyola. Cette dernière est construite pour des enfants des militaires. Ces 2 écoles comportent chacune 6 salles de classe, des salles de réunion, des sanitaires et des salles pour l'informatique. Le numéro 1 de la ville, Jacques Massingo, a effectué jeudi dernier une tournée d'inspection sur les différents chantiers pour s'enquérir de l'évolution des travaux. À l'issue de la visite, il n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction car les travaux sont déjà à l'étape de finissage. Suivez Jacques Massingo, maire de la ville de Kolwezi.
Nous saluons les travaux qui ont été réalisés par les entrepreneurs. La semaine qui va commencer, nous allons lancer la fabrication des bancs. Donc nous sommes contents parce que nous sommes sur la ligne de devoir, de l'accomplissement d'un devoir constitutionnel que notre chef de l'État a pris comme cheval de bataille, la gratuité de l'enseignement. C'est dans ce devoir-là que la ville de Kolwezi, dans le cadre de soutenir cette vision de la gratuité de l'enseignement, nous nous sommes engagés à construire cette école, l'école Kamanyola et l'école Mavuno. Je l'ai dit sous contrôle de la commission budgétaire qui m'accompagne, qu'il y a encore 4 écoles qui sont prévues pour être exécutées au cours de cette année. Ce sont des écoles qui seront choisies dans les communautés religieuses pour soutenir les efforts de la gouverneure des provinces, son Excellence Sophie Masuka Saini. Nous rentrons très satisfaits de ce que nous venons de voir.
Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Alexis Oka, condamne l'incendie de la résidence du directeur provincial de la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'Inakope en sigle dans la province de La Chuapa. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Au cours d'une réunion d'urgence convoquée dans la soirée de vendredi à Kinshasa, Alexis Oka annonce des mesures administratives conséquentes. Il est au micro de Blaise Ndongala.
Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vient d'être saisi de la situation préoccupante qui vient de se produire à Bokungu, province de la Chuapa, relative à l'incendie par des personnes non autrement identifiées de la résidence temporaire du nouveau directeur provincial de la Dinakope. Nous condamnons cet acte incivique et même criminel, et en appelant à la responsabilité directe de son excellence, monsieur le gouverneur de la province de Choapa et de toutes les autres autorités pour la sécurisation des responsables du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté au niveau de la province administrative. Le ministère examine cette situation en vue de prendre des mesures administratives conséquentes.
Actualité internationale.
Un camion citerne transportant du carburant est entré en collision avec un autre poids lourd hier sur la rocade sud dans la capitale kényane. AfricaNews.net qui rapporte la nouvelle parle d'un mort comme bilan provisoire. Selon les médias locaux, il s'agirait de l'un des conducteurs impliqués dans la collision. D'épaisses colonnes de fumée noire se levaient hier du lieu de l'accident. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré Mambé a annoncé son nouveau gouvernement vendredi, deux jours seulement après sa nomination. C'est un gouvernement placé sous le signe de la continuité. Il est presque identique au précédent, en dehors de quelques ministres qui changent de portefeuille.
L'invité.
La coordination provinciale de la protection civile au Nord Kivu, actuellement basée provisoirement à Beni, depuis l'occupation de Goma par l'FC-M23, a été dotée jeudi de véhicules et de matériel bureautique par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Quelle valeur peut-on accorder à cette donation et quels sont les défis opératoires à relever? Joël Ndagana, coordonnateur provincial de la protection civile, répond au micro de Marc Maroufimbo.
Joël Ndagana, bonjour.
Bonjour.
Les bureaux de la coordination provinciale de la protection civile, provisoirement basés à Beni depuis l'occupation de Goma par l'AFC-M23, viennent d'être dotés de motos et de matériel bureautique. Que représente concrètement cette dotation pour vous?
En fait, il y a une remise importante des matériels des bureaux et si quelques engins roulent là, afin de nous permettre de bien fonctionner. C'est vraiment une responsabilité à plus qu'on nous donne. Nous n'avons plus d'esquisses par rapport à certaines questions. Telles que vous le savez, depuis que nous avons quitté Goma, nous nous sommes retrouvés à Beni pour notre installation, sans silo, et sans papier, et tout devrait recommencer à zéro. Raison pour laquelle nous apprécions vraiment en tout cas cet accompagnement de la MONUSCO qui pourra nous permettre encore une fois de relever nos capacités afin que nous puissions prester tel qu'il est demandé. C'est-à-dire, tel que vous le savez, la protection civile, c'est un service exigeant, c'est un service qui demande beaucoup d'obligations, qui a encore besoin de beaucoup d'autres outils. Et nous sommes toujours là et nous demandons aussi à d'autres partenaires d'emboîter les pas de la MONUSCO par le truchement de se servir des affaires civiles de la MONUSCO, qui est vraiment en tout cas notre partenaire clé. Avant que nous arrivions à Beni, il venait de nous construire un bureau à Goma, c'est-à-dire le bureau de la coordination provinciale de la protection civile, malheureusement qui a été vandalisé, pillé par les ennemis de la paix, tel que vous le savez. Et à part ça, il venait aussi d'équiper le bureau de la protection civile au niveau de Walika, c'est-à-dire les bureaux territoriaux de Walikale, les bureaux territoriaux de Masisi, les bureaux territoriaux de Nyiragongo, les bureaux territoriaux de Rutshuru. Et à cela, j'ajoute encore une fois la construction du bureau de la protection civile de la ville de Beni, qui venait d'inaugurer il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire c'est un partenaire vraiment qui est toujours avec nous et qui écoute nos pleurs. Quand nous recourons toujours à lui, il ne tarde pas vraiment en tout cas à nous accompagner et c'est un grand plaisir. Mais un plaisir que je vous dis, qui est transformé surtout à une question de responsabilité. Parce que quand on vous donne des moyens pour travailler, c'est-à-dire on vous demande de faire plus, de faire preuve de ce que vous pouvez être à mesure de faire.
Alors concrètement, quel type de défi opérationnel comptez-vous relever grâce à cette donation au niveau de la protection civile?
À travers de ces donations, je l'ai dit à l'entrée des jeux, je disais que nous sommes venus sans silos, sans papier, sans ordinateur, sans imprimante, mais aujourd'hui nous venons d'avoir ces outils. Nous n'avions pas de chaises, nous n'avions pas de tables, de bureaux. Maintenant nous aurons quand même au moins un cadre qui pourra nous permettre de faire le minimum de travail. À partir de cette mobilité, cela pourra nous permettre aussi de faire les descentes sur terrain et de nous rendre compte de certaines réalités. Je vous dis, la distribution même des correspondances était tout un problème par rapport à ce que nous sommes en train de traverser depuis que nous sommes à ville. Et c'est le premier partenaire qui vient en premier vraiment pour nous appuyer et nous disons merci. Et j'ai ajouté pour dire que d'autres partenaires sont aussi les bienvenus parce que les défis sont encore énormes. Mais vous devez savoir que lors des mandats de la MONUSCO avec la section des affaires civiles, il y a certains outils qui ont été mis en place. Il y a d'abord les comités locaux de protection, il y a CAN, il y a les officiers des liaisons et tous ces gens ont été mis à la disposition de la population pour permettre à ce que la population puisse avoir au moins ces outils afin de garantir leur protection. Et tel que vous le savez, les numéros CAN, c'était pour faciliter la remontée des alertes. Mais avec les systèmes, c'était la remontée surtout des incidents, c'est-à-dire les rapports des incidents. Mais avec nous maintenant, nous allons les transformer et nous allons les capaciter pour qu'ils puissent chaque fois remonter les alertes. C'est-à-dire nous avons besoin plus des alertes pour protéger la population civile. Parce que les rapports des incidents viennent toujours quand les dégâts sont déjà là. Mais si une fois on informe, attends, les services donateurs de réponses peuvent intervenir et épargner les vies civiles qui sont mises à danger.
La donation est une chose, mais sa gestion en est une autre. Comment comptez-vous utiliser ces matériels de manière responsable pour protéger les civils?
Tel que vous le savez, les motos, c'est pour la mobilité et pour le bon fonctionnement de la coordination provinciale de la protection civile. C'est-à-dire, il a fait allusion au code et éthique de la déontologie des agents publics de l'État. La protection civile, c'est un service de l'État. Il y a les instruments juridiques déjà qui régissent les agents publics de l'État. Comment utiliser les outils mis à leur disposition? Et ce sont des agents qui sont outillés. Ils connaissent bien ces codes d'éthique et de déontologie d'un agent public de l'État. Je suis rassuré qu'ils vont les utiliser à bon père de famille tel qu'il nous a été recommandé. Mais si une fois ils s'écartent de cette philosophie, nous sommes là et ces codes donne des mesures de sanctions aussi par rapport à l'usage d'un engin remis au service de l'État.
Joël Ndagana, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Joël Ndagana, coordonnateur provincial de la protection civile au Nord Kivu. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Jude Mister Bilanda. Bonne journée dominicale.